20 juin 1789, le serment du jeu de paume. C'est sous la pluie, le 20 juin 1789, que les députés du tiers et ceux du clergé se mettent en marche pour trouver une salle. À Versailles, on leur a fermé la porte au nez. Le 19 juin 1789, le clergé, par 149 voix contre 137, décide de rejoindre le tiers. Il faut fermer la salle des menus plaisirs. C'est ce que disent Marie-Antoinette et leur prince. Ainsi, les députés du tiers et du clergé ne pourront se réunir. Et eux, reine et prince, vont gagner du temps, s'organiser pour riposter. Le 20 juin, alors que le roi chasse le cerf en forêt, les députés du tiers, comme prévu, trouvent donc la salle des menus plaisirs close. Qu'à cela ne tienne, ils vont trouver un autre local. Soudain, le député Joseph Guillotin, oui, le vulgarisateur de la guillotine, se dit que, dans Versailles, à 10 minutes de marche, une grande salle, la salle du jeu de paume, l'ancêtre du tennis, pourrait bien contenir les députés sans local. Tous se mettent en marche, acclamés sur leur passage par les Versaillais. Arrivés dans cette salle à 10h du matin, ils décident de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Le texte du serment du jeu de paume, rédigé par le député Target, élu par Bailly, est signé par tous les députés du tiers-état, sauf Le 21 juin, Necker conjure le roi de s'adoucir. « Pas question de s'attendrir, » déclare Marie-Antoinette, que son frère Joseph, le futur empereur Joseph II, appelait « tête avant ». Et les princes la soutiennent. Le 22 juin, 150 députés du clergé rejoignent le tiers. Deux nobles, timidement, effectuent la même démarche. Le 23 a lieu dans la salle des menus plaisirs la séance royale. Le maître de cérémonie, le marquis de Dreux-Brézé, fait entrer fort cérémonieusement, par la grande porte, les députés de la noblesse et ceux du clergé. Dehors, il pleut à verse. Les députés du tiers sont volontairement maintenus sous les trompes d'eau. Ils attendent dans la boue qu'une petite porte leur soit ouverte. Trempés, ils entrent quand même, pour entendre le roi, conseillé par la reine et les princes, qu'il pourrait bien, s'il le voulait, dissoudre les états généraux. La séance levée, les députés du tiers et beaucoup de ceux du clergé ne bougent pas. Le marquis de Dreux-Brézé s'approche.
« Le roi a levé la séance, il vous ordonne de partir. »
Alors, comme dans Cyrano, comme dans les romans de Cap et d'Épée, comme au théâtre, des répliques vont jaillir et couvrir de leur panache la postérité, toujours médusée quand elle les entend, même si on prétend qu'elles ont été inventées après coup. C'est Bailly qui, d'abord, répond à Dreux-Brézé
« La nation assemblée ne peut recevoir d'ordre. »
C'est Mirabeau qui tonne à l'oreille des générations futures
« Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté de la nation et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. »
Non mais, tout penaud, le marquis s'en va porter intacte la phrase au roi qui répond
« Ils veulent rester. Eh bien, qu'ils restent. »
Dès le 24 juin 1789, la plupart des députés du clergé ont rejoint le tiers-état. Le vote par tête, et non plus par ordre, qui garantissait la victoire à la noblesse et au clergé, est décidé. Les élus sont 1139 au total. Le clergé, 291 députés, dont 208 curés, 47 évêques et 36 abbés. La noblesse, 270 députés. Le tiers-état, depuis qu'il a été décidé de doubler le nombre de ses représentants, rassemble 578 élus. Le vote par tête leur garantit la majorité. Le 25 juin, 47 députés de la noblesse franchissent le pas. Les voilà avec le tiers. À leur tête, le duc d'Orléans. À Paris, on veut le faire roi. Le 27 juin, tout Paris et tout Versailles sont illuminés. Le roi a donné l'ordre au reste de la noblesse, au reste du clergé, de se rallier à l'Assemblée nationale. Bailly peut alors dire
« Et voilà, la famille est complète !»